Bonjour Manuel Carcassonne.
Bonjour.
Vous êtes le patron des éditions Stock, un homme puissant dans le milieu littéraire et pourtant c'est l'écrivain débutant que je reçois ce matin. Vous faites partie des nouveaux talents de cette rentrée littéraire pour votre premier livre, Le Retournement. Vous avez été directeur général adjoint de Grasset, chez qui vous publiez ce livre. Vous y avez passé 22 ans, journaliste, critique littéraire. Quand on connaît si bien ce qu'est le métier d'écrivain, n'est-ce pas pétrifiant de passer de l'autre côté ?
Aussi, à mon avis, on ne devrait pas publier, parce que quand on sait le nombre de livres qui s'entassent, s'empilent et se font concurrence dans les librairies, c'est assez inconscient. Mais je pense que c'est d'une certaine manière l'inconscience qui porte aussi les projets.
Donc c'est aussi un retournement finalement que vous opérez dans votre propre milieu ?
C'est un des multiples sens du mot retournement. Je crois que c'est aussi une transformation, alors pas tout à fait définitive, hein. Quand même, je reste totalement éditeur. Mais il y a eu un moment où j'ai eu envie d'écrire ce livre.
Alors, vous publiez donc un récit autobiographique et érudit, comme un voyage à l'intérieur de vous-même, en quête de votre identité, et ça vous ramène vers votre judéité. Le Liban, qui est un peu votre pays d'adoption, vous sert de guide dans cette quête identitaire. Vous êtes issu d'une famille de juifs ashkénazes d'Alsace d'un côté, de juifs de Provence de l'autre, et c'est votre rencontre avec Nour, votre compagne, libanaise d'origine grecque catholique, qui a tout fait basculer et qui vous a retourné. Expliquez-nous.
Vous l'avez très bien résumé, bravo.
Si, c'est déjà ça.
C'est pas si simple. Oui, je crois que c'est ça. Je suis typiquement ce qu'on appelle un juif laïque français depuis des générations. Je ne m'étais jamais complètement posé la question de ce judaïsme. De la même manière que je dois dire, je suis d'une génération d'un modèle universaliste, laïque, intégré, sinon assimilé, pour lequel ça n'a jamais posé de problème. Jusqu'à ma rencontre en 2013 avec ma compagne, on s'est mariés d'ailleurs, et je crois que c'est cette rencontre avec quelqu'un qui venait d'une culture totalement différente, mais dans laquelle, et c'est l'un des sujets du livre, j'ai fini par reconnaître aussi énormément de traits distinctifs des minorités. Les minorités se parlant entre elles, elle est d'une minorité chrétienne. Mmh. Donc selon la multiplicité des minorités du Liban, elle est très exactement ce qu'on appelle grec, catholique, melkite. Notre fils commun a été baptisé à l'archevêché grec, catholique, melkite de Beyrouth, devant mon étonnement, je dois dire. Et ces minorités se parlent. C'est-à-dire qu'il y a plus à dire entre minorités, bien évidemment, qu'entre majorité et minorité. Il y a plus à dire entre cultes qui ont été persécutés pendant des milliers d'années. Et il y a aussi, bien sûr, dans ce livre, un voyage vers le sud. Mmh. Ce voyage, je l'ai tenté, si j'ose dire, à partir de rien. Je ne savais très peu de choses. Ça a été 3-4 ans de travail, de documentation, d'archives, de rencontres, d'interviews.
Vous retracez l'histoire des Juifs de Provence, notamment.
Au lieu de se dire, je vais parler d'un couple au présent, j'ai dit, nous allons, ce couple et le lecteur, nous allons remonter 2000 ans d'histoire.
Oui.
Et on remonte jusqu'à Jérusalem et Beyrouth, il y a 2000 ans. Et ce, jusqu'à aujourd'hui. Ça semble un peu fou, dit comme ça. Et c'est vrai que c'est un projet un peu fou.
Pour la première fois aussi, vous évoquez des choses intimes. Une vraie fausse tentative de suicide, suivie d'une longue dépression, la mort de votre père lorsque vous aviez 23 ans, comme s'il devait y avoir un lien entre judéité et malheur. Être juif, pour vous, c'est être rescapé avec toute la culpabilité que ça suppose ?
Ça, vous devriez interroger ma mère, je pense. Oui et non, alors je dirais, parce que il y a cette idée de survivance, ça je crois que c'est très important. Il y a cette idée qu'à toute minorité, que rien n'est inscrit éternellement. J'ai toujours été frappé de la précarité des destins. J'ai toujours été frappé du fait que, au sommet, on est parfois proche de descendre. J'ai toujours été frappé que les fortunes passaient, que les empires s'écroulaient, que les minorités étaient obligées de bouger physiquement d'un pays à l'autre. À l'heure où nous parlons, on dit que 200 000 chrétiens ont fui le Liban à cause de la crise économique et financière et de l'insécurité qui y règne. Moi, j'ai la chance, du côté de mon père, de descendre de cette communauté très méconnue et qui mériterait qu'on s'y attarde,
des
juifs du
Comtat
Venaissin,
ouais.
Des juifs du pape, qui n'ont pas bougé de ce coin-là, donc entre Avignon, Carpentras, Cavaillon, pendant des siècles. Mais finalement, ce bonheur français, parce qu'il y a eu un bonheur français pour eux, ils ont été heureux et ils ont été rescapés beaucoup plus, évidemment, que les populations de l'Est au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ce bonheur ne doit pas faire obstacle à l'idée qu'il y a un malheur récurrent.
Mmh. Quand vous êtes au Liban, vous écrivez « Je suis un juif cousu d'arabe ». En fait, vous voulez montrer que la synthèse est possible?
Je veux montrer, au jour où nous parlons, nous sommes tous menacés d'un débat très stérile sur l'identité. On doit s'appeler Alfred et pas Mohamed, on doit avoir un seul culte, on doit avoir si possible même pas de culte du tout si on est totalement laïque. Ben, je veux montrer que non, que c'est absurde, que c'est même idiot, que c'est contraire au bon sens. On peut être plusieurs choses. Romain Gary a cette très belle phrase, nous sommes tous des additionnés. Mmh. Oui, pourquoi ne pas additionner nos identités au lieu de les soustraire? C'est tellement plus simple et tellement plus sympathique.
Mais est-ce que vous regrettez que l'identité soit devenue un des grands thèmes de cette campagne présidentielle aujourd'hui?
Alors, je pense
portée
que...
par des idées à la droite de la droite.
Oui, je pense que l'identité est en soi un sujet intéressant, qu'on ne devrait évidemment pas laisser cette notion aux mains de sectateurs parfois absurde, mais l'identité ne doit pas être escamotée. Il y a une identité, il y a une recherche de l'identité. Il y a chez beaucoup de gens, cette recherche de l'identité. Alors, pourquoi pas moi, d'une certaine manière, c'est cette rencontre amoureuse, parce que ce que le livre raconte beaucoup, c'est une rencontre amoureuse. Une rencontre amoureuse qui va s'établir dans le temps, si j'ose dire, dans les siècles, et qui va être cryptée sur une forme de répétition aussi, parce que l'histoire, c'est aussi de la répétition, et c'est aussi la recherche de la vérité, la recherche de la lumière. Nour, le prénom de l'héroïne, veut dire lumière en arabe. Mmh. C'est probablement mon inconscient qui m'a dicté de la prénommer comme ça.
Et quand vous entendez Éric Zemmour dire que si on continue comme ça, la France en 2050 sera comme un Liban en grand, qu'est-ce que ça vous inspire?
Oui, quand j'ai commencé à écrire ce livre ou à travailler sur ce livre, je ne pensais pas que l'identité reviendrait à ce point dans un débat. Je ne pensais pas que le débat politique porterait sur l'idée de l'identité et l'idée de la nation. Ce sont deux idées très importantes pour ce livre. Ça m'inspire qu'une fois de plus, on doit pouvoir vivre avec plusieurs identités. On doit les coudre, on doit les fusionner, on doit les rassembler et non pas les opposer, non pas les diviser. Diviser, c'est évidemment la rançon de la haine et on ne va nulle part en divisant.
Votre livre, Le Retournement, donc, est un objet littéraire non identifié quand même. C'est à la fois un récit, un essai, introspectif et universel. Vous voulez porter un nouveau genre?
Oui, merci d'avoir vu ça. Je n'ai pas voulu effectivement un seul genre. J'aurais pu peut-être être plus classique, faire un récit, vous voyez, autobiographique, un peu normé. Je ne l'ai pas souhaité, j'aurais pu essayer, n'étant pas historien, de faire un livre plus historique. Je ne l'ai pas souhaité non plus. Je voulais mêler l'histoire intime et l'histoire universelle. C'est un peu prétentieux, peut-être un peu fou, mais c'est ce que je voulais faire. Je voulais que l'histoire universelle soit le miroir de cette histoire intime.
C'est l'éditeur qui parle là, ou c'est
un
l'écrivain?
Un peu, mais j'ai essayé de faire les deux. Vous savez, je crois que je vais additionner les identités écrivain et éditeur, au moins pour le temps de ce livre qui, vous l'aurez compris, est un livre extrêmement personnel et douloureux même parfois.
Oui, c'est vrai. Alors, parmi les quatre finalistes du prix Goncourt de cette année, il y avait deux récits autobiographiques. Dans Le Voyage dans l'Est, Christine Angot raconte l'inceste dont elle a été victime dans sa jeunesse. Dans Enfant de salaud, Serge Chalandon évoque le parcours de son père sous l'occupation. Est-ce que la non-fiction est en train de prendre une place de plus en plus importante dans la littérature française?
Oui, alors ça on pourrait en parler des heures, mais oui, la réponse est oui, la non-fiction pénètre dans le corps même de la fiction, lui insufflant une autre direction.
Moi, et ça vous intéresse?
Oui, moi ça me passionne depuis toujours d'ailleurs, mais voilà, j'en connais que ça hérite, mais je trouve que c'est probablement quelque chose d'irréversible qui est en train de se passer.
Vous êtes passé de l'autre côté du miroir, Manuel Carcassonne, allez-vous continuer à écrire?
Inch'Allah, j'aurais envie de vous répondre. Écoutez, oui, si j'y arrive, oui, si j'ai le temps, parce qu'il y a un petit problème de temps quand on dirige une maison d'édition et qu'on est voué aux autres. C'est un exercice assez particulier que quand on est voué entièrement aux autres, de se vouer un moment à soi-même. Bon, un peu d'égoïsme de temps en temps n'est pas mauvais.
Merci Manuel Carcassonne d'être venu sur France Inter. Je rappelle que votre premier livre s'intitule Le Retournement, il est publié chez Grasset.